Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est un long processus qui débute aujourd'hui. La possibilité d'organiser un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Pour qu'il y ait référendum, les soutiens doivent recueillir plus de 4,5 millions de signatures. Et déjà ce matin, le ministre de l'Intérieur ne sera pas à la réunion d'information à ce propos. Nous y revenons dans un instant.
Et puis en détail, dans les matins de France Culture, les annonces du Premier ministre sur l'acte 2 du quinquennat. Il a notamment évoqué l'introduction d'un âge d'équilibre dans la réforme des retraites. Explication à suivre.
À suivre également le compte-rendu de l'Assemblée Générale de Renault. Hier, les actionnaires ont conforté Jean-Dominique Senard à la tête du groupe automobile. Et cela malgré les inquiétudes autour de l'alliance avec Nissan.
Et puis Donald Trump affirme qu'il pourrait utiliser les informations de pays étrangers contre un adversaire à la présidentielle en 2020. Comme un air de déjà-vu, vous l'entendrez.
Et puis nous irons en Iran où l'avocate Nasrin Sotoudeh est emprisonnée depuis un an pour avoir défendu les droits des femmes. Une pétition ce jeudi demande sa libération. Pour ou contre un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. La collecte de signatures débute aujourd'hui, en ligne, sur Internet. C'est le Parti Socialiste qui est à l'origine de cette demande, soutenue par les Insoumis, les Communistes et une partie des élus, les Républicains. Cette demande avait été validée par le Conseil constitutionnel. La grande consultation va durer 9 mois, à partir donc d'aujourd'hui. Et si 4 700 000 électeurs l'approuvent, cela représente 10% du corps électoral, alors un référendum d'initiative partagée sera ensuite lancée. Les modalités d'organisation seront présentées ce matin au Conseil constitutionnel avec 2 jours d'avance sur la date limite, Anne Fauquemberg.
Le gouvernement avait jusqu'au 15 juin pour mettre en place le dispositif de recueil de signatures. C'est donc chose faite, le décret est sorti et depuis minuit, un site internet dédié permet de déposer son soutien à la proposition de loi référendaire sur, je cite, le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Soutien par voie électronique, mais aussi physiquement dans les communes. Le Conseil constitutionnel le détaillera ce matin en l'absence de Christophe Castaner, opportunément coincé au Sénat pour le discours de politique générale du Premier ministre et qui se fera représenter. Le ministre de l'Intérieur n'apprécie guère de devoir mettre en place cette procédure qui réunit derrière elle près de 250 députés et sénateurs de la France insoumise à LR. Les représentants des groupes politiques seront toutefois reçus cet après-midi place Beauvau. Rendez-vous obtenu au forceps, mais Valérie Rabault, députée PS, arrive avec 3 pages de questions préparées consciencieusement mardi soir au Palais du Luxembourg.
Il y a plusieurs interrogations. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas aujourd'hui sur les listes électorales et qui souhaite s'inscrire, s'il s'inscrit après le 15 juin, va pouvoir voter? Vous voyez, c'est ce type de question. Est-ce qu'une même adresse IP sur Internet, si elle se connecte 2 fois sur la plateforme du ministère de l'Intérieur, supposons qu'il y ait 4 personnes dans une même famille qui souhaitent voter, est-ce qu'elle va bien être recevable? Vous voyez, ce sont des petites choses très pratiques qui n'ont rien de politique.
Rien de politique, c'est un peu ironique pour ce sujet devenu l'un des fers de lance de quasi toute l'opposition, non sans tension sur le principe d'une campagne commune, sachant que certains veulent en faire un référendum anti-Macron, l'idée fait grincer des dents.
Le site pour se prononcer sur ce référendum d'initiative partagée est le suivant, www.referendum.intérieur.gouv.fr. Alors Anne évoquait à l'instant l'absence ce matin de Christophe Castaner, il est retenu au Sénat pour la déclaration de politique générale du Premier ministre. Même exercice finalement que celui qui a déjà été fait hier dans l'hémicycle de l'Assemblée. Le discours d'Édouard Philippe a duré près d'une heure. Il a notamment annoncé un bonus-malus pour les entreprises qui ont trop recours aux contrats courts, la remise à plat des aides à la rénovation énergétique ou encore la fin du plastique dans l'administration française dès l'année prochaine. Il s'agissait aussi hier de détailler le calendrier des réformes à venir. La date de l'examen de l'extension de la PMA à toutes les femmes est ainsi fixée à la fin du mois de septembre prochain. Pour la réforme des retraites, la plus explosif sans doute du quinquennat. L'examen du projet de loi n'est pas encore daté, mais pour un régime qui devrait rester déficitaire jusqu'en 2042, Édouard Philippe a évoqué de premières pistes de réforme, Anne-Laure Chouin.
Les propositions du haut commissaire à la réforme des retraites seront présentées courant juillet au gouvernement, mais le principe de cette réforme, à en croire le Premier ministre hier, est extrêmement simple. Elle appliquera les mêmes règles pour tous, à savoir 1 euro cotisé ouvrira pour chacun les mêmes droits et à terme, il n'y aura plus de régimes spéciaux. Édouard Philippe, qui a tenté de désamorcer les critiques, tous les droits acquis seront conservés et cette uniformisation du régime sera très progressive, a-t-il promis. Une chose est sûre, en revanche, il faudra travailler plus longtemps. Les Français l'ont déjà compris, a-t-il précisé, puisque l'âge effectif de départ à la retraite en France est légèrement supérieur à l'âge légal. C'est parce que les Français n'ont pas le choix, a-t-on pu entendre dans les rangs de l'opposition, un argument qu'a fait mine de ne pas entendre le Premier ministre. L'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, devrait donc être maintenu, mais tout sera fait pour inciter à partir plus tard, notamment via un grand plan pour l'emploi des seniors. On sait en effet que c'est dans cette catégorie que le bât blesse. Quand un senior perd son emploi, il devient plus difficile pour lui que pour d'autres de retrouver du travail. Une personne ayant travaillé toute sa vie ne gagnera pas moins que 85% du SMIC, a promis également le Premier ministre. Mais la question, celle qui n'a pas été abordée hier, c'est la valeur du futur point de retraite. Comment sera-t-il calculé? Comment sera-t-il éventuellement pondéré en fonction des carrières et des situations familiales? Les discussions à ce sujet sont loin d'être closes.
Instaurer un seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans, voici ce que souhaite la ministre de la Justice. Dans les colonnes de La Croix ce matin, Nicole Belloubet précise sa réforme de la justice des mineurs. Elle veut donc une présomption d'irresponsabilité pour les moins de 13 ans. Chaque année, environ 2000 jeunes de cette tranche d'âge font l'objet de poursuites selon le ministère de la Justice. Ce projet de loi-là est en passe d'être finalisé, celui de Jean-Michel Blanquer pour une école de la confiance. Après l'examen du texte à l'Assemblée nationale puis au Sénat, une commission mixte paritaire doit trancher aujourd'hui sur les points de désaccord. Une certitude, les regroupements école-collège ne referont pas leur apparition dans le texte. L'assouplissement de la scolarité obligatoire des 3 ans devrait être accordé. Enfin, la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme ou l'interdiction d'accompagner des sorties scolaires pour les mères voilées, tous ces sujets polémiques seront exclus du texte. Glissons-nous à présent sur les bancs de l'Assemblée Générale de Renault. Elle a eu lieu hier, première réunion de ce type depuis l'affaire Carlos Ghosn. Pour le nouveau président du groupe automobile Jean-Dominique Senard, les sujets à aborder étaient nombreux, entre l'échec du projet de fusion avec Fiat Chrysler et les tensions avec le partenaire Nissan. Cela a donc fait l'objet d'échanges soutenus entre les actionnaires et la direction, Steven Goyer.
Dans le contexte actuel, les actionnaires de Renault avaient forcément beaucoup de questions à poser à Jean-Dominique Senard sur l'avenir de l'alliance avec Nissan, sur l'échec aussi du rapprochement avec Fiat Chrysler suite à la décision de l'actionnaire principal, l'État, de réclamer un délai pour prendre sa décision.
Vous venez nous expliquer qu'un actionnaire avec 15% de Renault arrive à bloquer un projet fondamental. Et on a quand même l'impression que vous, avec 45% du capital de Nissan, vous ramez.
L'expression est élégante.
Alors pour le président du groupe, il a fallu arrondir les angles. Fiat, un échec désolant, mais l'idée reste en tête. Les tensions avec Nissan, une tempête dans un verre d'eau. Jean-Dominique Senard en est convaincu, l'alliance reste bel et bien la priorité.
Je vous le dis, l'alliance prend un nouveau départ qui doit se confirmer. Mais je voudrais vous rassurer, nous avons en réalité toutes les clés en main pour y parvenir. Je le dis très clairement, il n'y aura pas de réussite du groupe Renault sans réussite de l'alliance.
Une position qui rassure les petits actionnaires à la sortie de l'amphithéâtre. Luc dit avoir obtenu ce qu'il avait besoin d'entendre.
Ça nous a un peu rassurés quand même, parce que je crois qu'il faut qu'on reste sur l'accord avec Nissan, qu'on essaie d'arrondir les angles, et puis que l'on puisse repartir, je dirais, sur des bonnes bases.
Autre satisfecit souligné par Luc, le renouvellement de la tête de la gouvernance du groupe.
De toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait quelqu'un du sang neuf, comme on dit. Carlos Ghosn avait une image un peu de prédateur, donc il n'y a pas que lui, il y a aussi tout le staff de Renault qui a été renouvelé. Il fallait faire quand même une grande purge, à mon avis. Il y a quand même un challenge qui est très lourd à porter, à mon avis.
Un challenge qui s'exprime aussi en chiffres. En un an, le cours de l'action Renault est passé d'environ 85 euros à moins de 55 ces derniers jours.
Pour redorer l'image de la marque aux losanges dans le secteur automobile, Jean-Dominique Senard a tout de même convaincu hier. Les actionnaires lui ont renouvelé leur confiance à 91%, approuvant ainsi sa nomination pour 4 ans au conseil d'administration de Renault. Cette information annoncée ce matin, l'intersyndicale de Radio France appelle à la grève mardi prochain, tout secteur confondu. Il s'agit de répondre au plan d'économie de 60 millions d'euros sur 3 ans que propose la direction. Les organisations syndicales dénoncent la casse de Radio France.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, les mises en garde ne semblent pas avoir de prise sur Donald Trump. Le président américain ne refuserait pas des informations fournies par un pays étranger, Clara Lecoq-Réal ?
Eh bien non, des informations qui lui serviraient lors de la campagne présidentielle de 2020, qui serviraient à nuire à l'un de ses adversaires, comme un écho aux soupçons d'ingérence russe qui existe déjà pour le scrutin de 2016, un écho aussi à l'enquête qui a suivi. Donald Trump n'en a visiblement pas tiré de leçon. Voici ce qu'il déclare dans un entretien accordé à la chaîne américaine ABC, entretien qui sera diffusé ce jeudi.
Imaginez que vous êtes un élu du Congrès. Quelqu'un vient vous voir et vous dit « Hey, j'ai des informations sur votre adversaire. » Vous appelleriez le FBI ? Me faites pas croire ça. Si quelqu'un vous contacte d'un pays étranger, la Norvège par exemple, et vous dit « On a des informations sur votre rival », eh bien moi, je pense que j'ai envie de les entendre. Ce n'est pas une interférence, ce sont des infos. Moi, je les prendrai. Si je sens qu'il y a quelque chose d'illégal, peut-être alors que j'appellerai le FBI. Mais si quelqu'un débarque avec des billes sur mon adversaire, vous pensez que je vais me dire « Oh, et si j'appelais le FBI ?» De toute façon, ils n'ont pas assez d'agents pour s'occuper de ça. Mais franchement, posez la question aux élus du Congrès. Ils le font tous, ils l'ont toujours fait. Ça s'appelle recueillir des informations sur ses adversaires.
Voilà pour les propos de Donald Trump et son honnêteté poussée à outrance. Il était traduit par notre correspondant outre-Manche, Grégory Phillips. Grégory, qui a suivi pour nous par ailleurs hier la visite du président polonais à Washington. Le conservateur Andrzej Duda a de nombreux points communs avec son homologue américain. Et il s'agissait hier de discuter de la coopération militaire entre les deux pays, Grégory Phillips.
De manière très exceptionnelle, et pour qu'on mesure bien l'enjeu de la visite du président Duda à Washington, Donald Trump a ordonné qu'un avion de chasse américain F-35 survole le cœur de la capitale fédérale et les jardins de la Maison-Blanche où se trouvaient à ce moment précis les deux dirigeants et leurs épouses. Quelques minutes plus tard, le président polonais confirme d'ailleurs que son pays veut acquérir 32 de ses avions F-35 de cinquième génération, avec les commandes précédentes de missiles Patriot notamment. L'État polonais va acheter pour 10 milliards de dollars d'équipements aux États-Unis. Surtout, Donald Trump annonce qu'il va déployer 1 millier de soldats américains supplémentaires sur le sol polonais. Ils sont déjà 4500 à y faire des rotations. En revanche, les deux dirigeants n'ont pas évoqué cette fois l'idée d'une base militaire permanente que le président Duda, en fin d'année dernière, appelait de ses vœux, proposant même de la nommer Fort Trump. Pour le dirigeant conservateur polonais, le soutien logistique et militaire des Américains est en tout cas essentiel face à une Russie que Duda a qualifiée d'inamicale et d'impérialiste. Pour la Maison-Blanche, cette coopération avec les Polonais permet de renforcer une présence militaire américaine à environ 1 millier de kilomètres de Moscou.
Et notons qu'en ce qui concerne les relations américano-russes, Donald Trump annonce qu'il rencontrera Vladimir Poutine à la fin du mois. Ce sera en marge du G20 organisé au Japon. Le quartier du Parlement local à Hong Kong est de nouveau occupé par des milliers de manifestants ce matin. Il est 14h passé là-bas. Un important dispositif de sécurité est en place, bloquant des passerelles et procédant à des contrôles d'identité. Les bâtiments du gouvernement restent fermés ce jeudi. Les manifestants protestent toujours contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale. Ils y voient une ingérence de plus de Pékin. L'examen de ce texte avait été reporté hier matin. En bref, encore cette arrestation en Algérie, l'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouyahia a été placé hier en détention provisoire. Ce proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika est mis en cause dans une affaire de corruption. Hier également, l'ancien ministre des Travaux publics a été placé, lui, sous contrôle judiciaire. Pour ne pas l'oublier, une pétition d'Amnesty International est lancée aujourd'hui pour demander la libération de l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, prix Sakharov en 2012. Elle est détenue depuis un an maintenant à Téhéran, après avoir défendu les droits des femmes en Iran à ne pas porter le voile. 7 chefs d'accusation ont été retenus contre elle, notamment espionnage et incitation à la débauche, autant de prétextes pour la faire taire. Elle a été condamnée à 33 ans de prison, 148 coups de fouet. Son portrait ce matin avec Valérie Crova.
Pour comprendre qui est Nasrin Sotoudeh, il faut l'écouter parler. C'était en mars 2018, 2 mois avant son arrestation, dans son bureau à Téhéran.
Je vous dis que celui qui a pu imposer aux femmes un mètre de tissu est capable de tout contre les femmes. C'est une question qui concerne les femmes et c'est aux femmes d'en décider et pas aux hommes.
Nasrin Sotoudeh représentait 3 jeunes iraniennes qui avaient bravé l'interdiction d'enlever leur voile en public dans les rues de Téhéran. Ces paroles ont fait d'elle la porte-voix de ce mouvement qui a été rapidement réprimé par le régime des Mollahs. Cécile Coudriou est la présidente d'Amnesty International France.
Il y a véritablement un durcissement du régime iranien et une volonté de faire taire toute dissidence qui est devenu intolérable pour ce gouvernement.
Pour avoir défendu des opposants à l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, Nasrin Sotoudeh a déjà passé 3 ans dans cette même prison d'Evin où elle est incarcérée. Quand ses geôliers lui ont demandé de porter le voile dans l'enceinte de la prison, elle a refusé. Pour la punir, on lui a interdit de voir ses 2 enfants, mais Nasrin Sotoudeh a tenu bon et n'a pas plié, fidèle à ses principes.
Et ce soir à 18h, un rassemblement est prévu aux abords de l'ambassade d'Iran à Paris. Nasrin Sotoudeh, une vie de combat. C'est un article à retrouver sur notre site franceculture.fr. Le temps maintenant prévu en France ce jeudi, plutôt ensoleillé au sud et à l'est, encore un peu instable sur le nord-ouest avec de faibles averses. Peu de changements côté température, il faut toujours compter 13 degrés ce matin à Brest, 15 à Lille et Paris, 16 degrés à La Rochelle, 20 degrés à Strasbourg et Lyon, 22 ce matin à Marseille et 11 degrés sous les nuages d'Évreux. Je crois que cela vous intéresse, Guillaume.
Et oui, parce qu'on va au Bec-et-Loin. C'est une commune de l'Eure. C'est en quelque sorte la Mecque de la permaculture. On va apprendre donc à cultiver bio. Moi, je ne sais planter que les aubergines. Ça pousse à peu près tout seul. Mais je sais que vous êtes plus douée, Clara. Et donc, on verra comment une agriculture plus respectueuse de l'environnement, une agriculture concrète est possible. Ça sera demain dans les matins. Et puis, pour aujourd'hui, on va continuer à évoquer la déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe et voir avec à la fois un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, qui sera rejoint par une politiste, Agathe Cagé, si on a affaire à un acte 2, un acte 1,5. Dans une demi-heure, la série Tchernobyl sera à l'honneur chez Mathilde Serrel. Et Aurélien Bélanger délivrera sa conclusion sur les préfaces et puis un billet politique. Frédéric Saïs, sur quoi?
Sur quoi, à votre avis, Guillaume?
La déclaration de politique générale.
Exactement.